C'est un plaisir d'être de nouveau avec vous. C'est ici que je suis bien, je suis chez moi, avec vous. Et vous savez, nous savons que c'est la volonté de Dieu que les âmes soient sauvées, que les pécheurs bénéficient de la miséricorde de Dieu et qu'ils ne reçoivent pas ce dont ils sont dignes, mais que par la grâce de Dieu, ils reçoivent ce qu'ils ne devraient pas recevoir, c'est la bénédiction de Dieu. Et c'est vraiment c'est extraordinaire de pouvoir être sauvé et de voir et de vous regarder et de voir que le Seigneur vous a sauvé. Mais il y a un moyen d'aller encore plus loin dans le Seigneur, c'est non seulement d'être sauvé, mais ensuite d'être utilisé par Dieu pour le salut des autres. Et ça, c'est une joie extraordinaire qu'on peut avoir alors que nous sommes encore sur terre. Et le Seigneur veut cela pour chacun d'entre nous. Tout à l'heure, il était dit que le frère Abdenour est là et qu'il va participer à des émissions télévisées sur la parole de Dieu qui vont être pour l'Afrique du Nord. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le frère Abdenour, il a été baptisé ici. Il travaille avec le frère Malek, qui est responsable de l'émission radio. Et ils vont travailler avec un autre frère qui est marocain et qui lui aussi a été baptisé dans l'église. Et c'est l'œuvre de Dieu qui continue. Vous faites partie d'une église qui croit, qui est en train de se développer. Et c'est bon de continuer ensemble. Et je veux ce matin partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a permis de prendre conscience il y a 2-3 semaines. C'est justement comment le Seigneur a besoin de faire une œuvre dans nos cœurs, parce qu'il nous sauve, c'est bien, on est transformé, on est enfant de Dieu, mais en plus, après, il veut faire une œuvre dans nos cœurs afin de pouvoir nous utiliser dans la vie d'autres personnes. Donc, c'est pas seulement ce que je reçois, c'est une bonne chose, je reçois la vie éternelle, mais ensuite que le Seigneur puisse travailler dans mon cœur pour que je puisse apporter à d'autres. Et ça, c'est la plus grande joie. Parce que pouvoir apporter, avoir une part dans une œuvre spirituelle, dans la vie de quelqu'un, c'est un investissement pour l'éternité. Vous construisez une maison, un jour, il faudra la laisser. Mais s'investir et faire une œuvre spirituelle, alors ça porte des fruits pour l'éternité. Mais parfois, pour que Dieu puisse nous utiliser. Il ne suffit pas d'être bien disposé, d'avoir la volonté de dire « Ah, j'aimerais bien que Dieu m'utilise. » Mais parfois, avant de l'utiliser, il doit faire une œuvre, il doit préparer l'outil. Et donc, c'est cela que nous voulons faire ressortir. Je vais prendre 3 exemples dans la parole, et chacun, c'est un chapitre entier. Quand le Seigneur prend un chapitre entier pour décrire quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose d'important à tirer. C'est pas juste une histoire. Les chapitres sont 1 roi chapitre 17 et sont Jean chapitre 4 et aussi Actes des apôtres chapitre 10. Comprenez, on va pas pouvoir les lire. Alors, vous allez retenir ces chapitres, vous allez les relire. J'espère que vous connaissez l'histoire déjà, en tous les cas. Mais on va faire référence à cela. Mais vous savez, Dieu, si je veux pouvoir être un évangéliste, un gagneur d'âme, Dieu a besoin de faire une œuvre dans mon cœur, me préparer pour que je devienne un gagneur d'âme. C'est pas seulement être armé de quelques versets et puis après être persuasif et puis ça y est. Non, il y a un travail dans ma vie qui doit se faire. Si je veux des responsabilités au sein de l'Église, Dieu a besoin de faire une œuvre dans mon cœur pour que je puisse être utile. C'est pas parce que dans le monde j'ai des talents ou que j'ai des diplômes que je suis utile dans l'Église. Dans l'Église, je suis utile parce que Dieu a fait une œuvre dans mon cœur. Patricia me disait mardi... Il me parlait de la maman d'Albert qui aime énormément le Seigneur, mais elle ne sait pas lire, mais elle aime énormément le Seigneur. Vous savez, c'est pas ce qu'on est dans le monde et ce qu'on vaut dans le monde qui compte. Mais dans l'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu a pu faire dans nos cœurs. Et c'est ce que nous devons désirer et ce à quoi nous devons aspirer. Si je veux pouvoir faire de la relation d'aide, quelqu'un passe par un moment difficile, je veux l'encourager. C'est pas parce que je dis, eh bien, je veux l'encourager, c'est bon courage, tout ça. Non. Celui qui peut aider quelqu'un d'autre, c'est celui qui a été aidé. Celui en qui une œuvre a été faite. Sinon, il ne peut pas apporter l'encouragement. Si je veux avoir un ministère d'enseignement, c'est parce que le Seigneur m'a déjà appris des choses. Sinon, les choses spirituelles, c'est pas avec le cerveau qu'on les présente, mais c'est par le vécu, l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, que nous pouvons apporter un enseignement biblique. Et heureusement pour nous, Dieu est patient pour réaliser cette œuvre en nous. Il prend le temps. Parce que ça se fait pas en une nuit. C'est pas parce que j'ai passé une nuit de prière, tout d'un coup, je suis en état de pouvoir faire des choses pour Dieu. C'est parce que je passe une vie avec le Seigneur que Dieu peut m'utiliser. Dieu est patient pour réaliser cette œuvre. La question pour nous, c'est sommes-nous bien disposés à le laisser agir et le laisser travailler dans nos vies? Et puis, puisque Dieu est patient avec nous, soyons patients les uns avec les autres aussi. Est-ce que c'est pas parce que le petit gamin, tout sérieux, est parti en première année de CP, et à la fin de l'année, la maman lui dit, écoute, est-ce que tu sais résoudre des équations? Eh non, c'est pas, donne-lui le temps. Il est en train d'apprendre, il va y arriver, mais sois patient. Mais nous aussi, les uns avec les autres, ne demandons pas à quelqu'un de faire, mais laissons agir, encourageant pour que Dieu fasse son œuvre et que nous puissions croître. Et Dieu va nous utiliser. Le premier exemple que je prends, c'est dans 1 Roi chapitre 17, et vous pouvez y aller. On va relever quand même quelques détails là. 1 Roi chapitre 17, et donc j'intitule ce premier exemple, c'est la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta et Élie le prophète. Lorsque je dis Élie le prophète, tout de suite on dit « Ah, Élie !» Élie le prophète, ah, c'est pas n'importe qui. Et oui, mais Élie le prophète a dû subir une formation, une transformation pour pouvoir devenir ce qu'il représente pour nous aujourd'hui. Lorsque je commence ce chapitre de 1 Roi chapitre 17, il nous dit Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab c'était le roi d'Israël, du royaume du Nord, il dit « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura point de ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Alors il dit au roi, plus de rosée, plus de pluie, jusqu'au jour où je dirai qu'il va pleuvoir. Eh bien, à partir de ce moment-là, il avait intérêt de disparaître. Pour deux raisons. Un, parce que le roi, ça lui plaît pas, hein, une fois qu'il se rend compte que c'était vraiment du vrai, il va le chercher, et on lira plus loin qu'il le cherchera. Mais c'est une grâce de Dieu que Dieu cache Élie, parce que si jamais Akab l'avait tué, il y aurait encore pas de pluie. Hein, parce que c'était selon sa parole. Mais Dieu utilise cette situation où Élie, maintenant, il a besoin de se cacher. Et Dieu lui dit, écoute, tu sais où tu vas aller te cacher? Tu vas aller du côté du Jourdain, tu traverses le Jourdain, et là, il y a un petit torrent qui s'appelle Kérit. Et là, tu te cacheras. Tu boiras de l'eau du torrent. Et puis, j'enverrai des corbeaux pour t'apporter du pain et de la viande, matin et soir. Ça, c'est mieux que certains d'entre nous, hein, on mange pas de la viande deux fois par jour. Hein. Mais il l'envoie, et Élie, il n'a pas le choix, il faut y aller. Mais quand il réfléchit, il dit, mais des corbeaux qui vont m'apporter du pain et de la viande, mais c'est des oiseaux impurs. Mais Dieu a dit, j'enverrai des corbeaux. Dieu aurait pu donner l'ordre à des pigeons, hein, il aurait pu donner l'ordre à autre chose. Il envoie des corbeaux. C'est pas rien que pour rendre l'histoire intéressante. Dieu a une raison pour tout ce qu'il fait. Et justement, il a envoyé des corbeaux parce qu'il voulait envoyer des corbeaux, parce qu'il y avait un travail à faire dans le cœur de Élie, et pour le préparer pour la suite de l'histoire. Parce que Élie, il a commencé à s'habituer à recevoir ce pain et cette viande chaque jour que les corbeaux venaient puis lâchaient. Et puis Dieu l'a mis près d'un torrent. Vous savez, un torrent, c'est pas alimenté par une source, mais un torrent est alimenté par la pluie. Donc c'est une situation temporaire. Situation temporaire parce qu'il y a une leçon à apprendre et une fois qu'elle est apprise, on peut partir. Dieu aurait pu le cacher ailleurs. Dieu arriva à rendre des gens introuvables. Mais Dieu voulait faire une œuvre dans le cœur de Élie. Au bout d'un certain temps, le torrent est à sec, il n'y a plus d'eau. Et Dieu s'adresse à Élie, donc au verset 8. Il nous dit, alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. » Maintenant, il lui dit, « Tu vas quitter le territoire d'Israël et tu vas aller en territoire païen. Hein, » les gens, dans l'esprit de quelqu'un qui a été éduqué en Israël, c'est les gens impurs, c'est les gens pas bien. Il dit, tu vas aller chez eux. Et en plus, tu vas aller chez, il dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Ça alors. Oui, mais Élie, s'il avait pas passé par cette étape près du torrent de Kérit, où il a été nourri par les corbeaux, il ne serait pas prêt pour aller manger de la main d'une veuve païenne. Dieu le prépare. Et Jésus lui-même dira dans Luc chapitre 4, il dit, mais n'y avait-il pas d'autres veuves en Israël? Pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé jusqu'à Sidon, en territoire étranger? Et Élie est éprouvé parce qu'il doit dépendre d'une femme que quand il arrive, hein, Dieu lui dit, j'ai préparé une femme, elle va te nourrir, il n'y a pas de problème. Il arrive là-bas et il trouve le frigo vide. Bon, ça c'est le langage d'aujourd'hui. Il y a assez de farine pour faire un gâteau pour un repas et assez d'huile pour malaxer cette farine et faire un repas. Et puis c'est terminé. Élie aurait pu dire, mais attends, Dieu, tu t'es trompé. Est-ce que je me suis trompé d'adresse? Mon GPS, il m'a mal aiguillé. Hein, je n'ai pas été au bon endroit. Non, non, c'est là, c'est cette dame-là. Elle prendra soin de toi. C'est-à-dire, comme tu as dû dépendre de moi pour les corbeaux, tu vas dépendre de moi pour cette femme. Mais vous savez, des fois, on a l'impression, on dit, mais Dieu, il aime bien compliquer la vie. Il aurait pu donner une réponse facile, quelque chose de... Bon, quelque chose d'un peu confortable, un peu d'agréable. Pourquoi est-ce que Dieu complique la vie? Et vous savez, parfois dans nos propres vies, on a ce sentiment aussi. Pourquoi est-ce que Dieu, il me donne pas directement du travail? Et puis ça y est, pourquoi est-ce que je dois faire 8 mois de chômage? Et oui, mais vous savez, des fois, Dieu, il a du travail à faire en nous. Pour lui, c'est plus important que de me voir travailler. Il dit, j'ai besoin, pendant que tu es au chômage, je veux t'apprendre quelque chose. Et là, Dieu est en train de préparer Élie. Et il le met dans une situation de dépendance totale. Élie l'accepte. Et je ne sais pas combien de temps ça dure. Peut-être 2 ans. Il est là et il vit au jour le jour. Mais parce que lui vit au jour le jour, cette veuve qui devait mourir parce qu'elle n'avait plus rien à manger, eh bien va vivre. Dieu qui prend soin des siens, ça permet à d'autres d'en jouir de cette bénédiction. Et lorsque vous relirez le chapitre, vous le lisez avec cette pensée-là, mais Dieu aurait pu faire ça avec n'importe quelle veuve. Il y a des veuves qui sont mortes de faim en Israël. Pourquoi il n'a pas choisi une veuve en Israël? Pourquoi celle-là? Et là, tout se passe bien, ce petit train-train maintenant, on a l'habitude, le niveau de farine ne baisse pas, le niveau d'huile ne baisse pas, et chaque fois il suffit d'aller chercher deux bâtons et il y a juste de quoi préparer un repas. Et puis un jour, on arrive au verset 17, eh bien, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Et il est mort. Et là, Élie, il ne comprend pas. Il dit, mais Dieu, il sait que Dieu peut tout, même s'il n'a jamais entendu parler d'une résurrection, parce qu'il n'y en a pas avant. Hein, dans la Bible, il n'y a aucun récit de résurrection. Mais il prend cet enfant, il monte dans sa chambre sur le toit, et puis il pose l'enfant et il dit, Dieu, tu ne peux pas faire ça. Cette femme, elle s'occupe de moi, elle prend soin de moi, et c'est comme ça que tu la traites. Il dit, je ne comprends pas. Vous savez, dans vos prières, vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Mais tout en vous souvenant que c'est Dieu. Hein? Il reste Dieu. J'ai dit, Dieu, je ne comprends pas, voilà ce que je pense, mais bon, je sais que tu es Dieu, et je te respecte. Et il dit, Dieu, je ne comprends pas. Et la femme, et ce qui est intéressant, c'est que cette femme, au verset 18, elle dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité? Tout d'un coup, elle pense à son péché. Elle prend conscience. Élie implore Dieu, Dieu entend Élie, rend l'âme à cet enfant, il redescend, il apporte l'enfant vivant à la mère. Et regardez au verset 22, l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Il fut rendu la vie. Élie prit l'enfant et descendit de sa chambre haute dans la maison et donna à sa mère. Et Élie dit, vois ton fils, il est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche et vérité. Et le chapitre s'arrête. Voilà. Voilà l'objectif de Dieu et il l'a atteint. C'est que cette femme, Dieu voyait dans cette femme une personne qui cherche à connaître la parole de Dieu, mais ne sait pas où la trouver, ne sait pas à quoi ça ressemble, elle n'a rien du tout. Mais elle veut, et Dieu, pour que cette femme puisse entendre, pour que Élie soit disposé à lui parler, eh bien, il lui fait passer un stage de formation niveau 1, ce stage Kérit, nourri par les corbeaux, pour qu'il soit prêt à aller chez une femme païenne, vivre dans sa maison, dans une maison impure, selon sa mentalité. Et puis ensuite, Dieu a frappé l'enfant pour que cette femme prenne conscience de son péché. Et puis Dieu intervient et à la fin, la femme dit, je reconnais où est la parole de Dieu. Et une fois qu'on sait où est la parole de Dieu, et une fois qu'on la reconnaît, eh bien, alors voilà, c'est la vie nouvelle qui vient. Tout ce processus pour une âme. Je vous répète encore ce que j'ai dit tout au début. Parfois, le Seigneur a besoin de me faire passer par pas mal de choses, agréables et désagréables, de subir parfois des injustices et passer par des moments où je ne comprends pas ce qui se passe, pour me préparer, pour parler à une personne, que lorsque je lui parlerai, elle reconnaîtra la parole de Dieu et se tournera à Dieu. Tout ça pour une âme. Regardez dans Jean chapitre 4. Rien qu'en disant Jean chapitre 4, vous savez qu'il s'agit de la femme samaritaine. Je crois que vous connaissez bien ce récit. Ici, c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. Il n'y avait pas de travail à faire en Jésus. C'est sûr. Mais vous remarquez, dans Jean chapitre 4, et au verset 8, il nous dit « Les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » Voilà, réfléchissez avec moi. Bon, je ne sais pas s'il y avait... Parce que souvent, quand ils voyageaient, ils n'étaient pas seulement Jésus plus 12 disciples. Il y avait les femmes qui accompagnaient à certains moments. Il y avait d'autres personnes qui accompagnaient. Par exemple, Matthias, qui sera élu apôtre par la suite, ben, la condition, c'est qu'il avait été avec Christ depuis le début jusqu'à la fin. Donc, il a toujours été là, même si on n'a jamais entendu son nom avant. Mais il avait toujours accompagné. Donc, ils étaient certainement plus. Bon, supposons qu'il y avait, disons, les 12. Supposons qu'il n'y avait que les 12. Il y avait certainement plus que ça, mais il y avait au moins les 12. Ils ont besoin d'aller chercher un casse-croûte. Est-ce qu'on a besoin d'envoyer 12 hommes pour aller chercher le casse-croûte de 12 hommes, de 13 hommes? Normalement, 2, 3, ça suffit. Et puis les autres, ils se reposent. Pourquoi fatiguer tous les 12? Chacun revient avec une baguette. Vous savez, ce que je vous propose, c'est que Jésus avait besoin de se débarrasser de tous ces gens-là parce qu'ils allaient gêner dans la conversation avec la femme samaritaine à cause de leurs idées. Parce que ça leur a pris du temps pour se rendre compte que les gens pouvaient être sauvés. Eux, ils avaient plus disposé à dire « Seigneur, veux-tu qu'on appelle le feu du ciel pour les détruire ?» Et Jésus a dit « Bon, des gens comme ça, on n'a pas besoin, chut, on les écarte. » Vous savez, le Seigneur, parfois, il a besoin de faire une œuvre en nous, et on le dérange. Parce que l'œuvre n'avait pas été encore faite dans leur vie, dans leur pensée. Vous savez, on vient au Seigneur, on est le produit de l'environnement dans lequel on est. On a été éduqué avec des idées, on a des pensées sur des gens, on a des préjugés, on a tout. Les femmes, c'est comme ça, les enfants, c'est comme ça, les étrangers, c'est comme ça, et puis les noirs sont comme ça. Et toutes ces choses sont là, ça fait partie de l'éducation, on ne l'a pas demandé, mais on l'a. C'est un bagage qu'on a. Et le Seigneur a besoin de faire un travail dans notre cœur. Mais là, Jésus, il fallait faire un travail avec cette femme. Mais il a dit, les disciples, j'ai besoin un peu de calme. Parce que même quand ils sont revenus, après que c'était tout terminé, et ils ont rencontré en chemin cette femme qui part en courant, elle est toute heureuse et tout ça. Et ils arrivent et disent, mais Jésus, qu'est-ce que tu parlais avec cette dame-là? Ça va pas, non? Vous savez, Dieu a besoin de faire une œuvre dans nos cœurs pour qu'on puisse être utile. Et il va le faire si je le laisse faire. Que je sois patient avec lui, parce que lui est patient avec moi, et soyons patients les uns avec les autres, parce que le Seigneur est en train de nous préparer pour toucher quelqu'un, quelque part. Et puis après, Jésus se trouve avec cette femme, et il doit surmonter encore d'autres obstacles, parce que cette femme, elle sait, elle dit, vous les Juifs, vous n'aimez pas parler avec les Samaritains, comment ça se fait que tu me parles? Et en plus, tu es un homme. Et Jésus doit surmonter la chose, et il va dire, écoute, il va établir tout de suite le thème, la conversation. Il dit au verset 10, Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Deux choses qu'elle a besoin de savoir. Jésus lui annonce tout de suite. Il dit « tu as besoin de connaître le don de Dieu ». Et pour nous aujourd'hui, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est le don de Dieu. Et j'espère que vous connaissez ce don de Dieu. Que quelqu'un vous en a parlé. Il a été dit tout à l'heure que Dieu, dans sa miséricorde, lui juste, et qui doit condamner le péché, finalement a mis la condamnation sur son Fils, afin de pouvoir nous offrir le pardon de nos péchés. Ça, c'est le don de Dieu. Il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Oui, il faut connaître le don de Dieu, et il faut connaître Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est que quelqu'un de bien dans l'histoire, ça ne suffit pas. S'il n'est qu'un prophète, ça ne suffit pas. S'il n'est qu'un homme qui a fait des miracles, et puis vraiment... quelqu'un vraiment un modèle pour nous aujourd'hui, et bon, quelqu'un qui était vraiment consacré à une cause, mais malheureusement, bon, ça n'a pas réussi. Hein. C'était un pacifiste, et puis ça n'a pas réussi aussi bien que pour Gandhi. Si c'est ça votre idée, vous n'avez pas compris qui est celui qui parle. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », il dit toi-même, et il lui donne la recette. Il dit, si tu aurais demandé. Vous savez, si nous voulons recevoir ce que Dieu a pour nous, le don de Dieu, il faut le demander. Ça ne vient pas comme ça. Il faut le demander. Il dit, tu l'aurais demandé, et il t'aurait donné quoi? De l'eau vive. Dans le français, on a mis de l'eau vive, parce qu'on ne pouvait pas mettre de l'eau de vie, ça fait penser à autre chose. Mais... en fait, ça veut dire de l'eau de la vie, avec un V majuscule. Et il t'aurait donné de l'eau de la vie, la vie éternelle. Bon, cette femme, au début, elle comprend rien de ce qu'il dit, même s'il a déjà établi son plan. Mais Jésus va être patient avec lui. Les disciples ne sont pas là, donc il va pouvoir parler tranquillement avec cette femme. Et au fur et à mesure de la conversation, eh bien vous remarquez qu'au verset 9, cette femme voit Jésus comme un juif. Hein, puis vous voyez le vêtement. Hein. Bon, Jésus, il s'est mis en tenue. Ouais. La culture. Mais ensuite, on arrive au verset 19, et elle dit, mais je vois que tu es prophète. Oh, ça commence à augmenter, hein, de prophète. Et lorsqu'on arrive à la fin, au verset 26, eh bien la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il vous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et alors, au verset 28, il dit, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Voilà, Jésus a travaillé avec elle, avec sa pensée. C'est une femme qui n'avait aucun arrière-plan de l'Ancien Testament. Il n'a pas cité l'Ancien Testament. Il a travaillé avec elle, avec ce qu'elle était. C'était une chose qui a été complètement ignorante des choses de l'Ancien Testament. Mais ça n'empêche pas que Dieu veut la sauver. Et Dieu emploie un langage qu'elle peut comprendre, des images qu'elle peut comprendre. Et il avance jusqu'au jour, jusqu'au moment. Il dit, je le suis. Je t'ai dit quel était le don. Il y avait un don de Dieu. Et je t'ai dit qui je suis. Et quand elle a compris qui il était, sa vie était changée. Elle est allée en ville, dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Ils ont dit, mais elle est drôlement changée, cette femme. D'habitude, elle longeait les murs. est allée chercher de l'eau à midi au lieu d'aller le matin ou le soir quand les autres femmes sont là. C'était une femme de l'ombre. Et là, tout d'un coup, elle vient en plein jour et dit « Venez !» Dit, elle est changée, qu'est-ce qui se passe? Allons voir. Et puis, au bout de quelque temps, eh bien, vous voyez au verset 42, les hommes qui étaient venus, ils disaient à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Eux aussi, ils ont découvert qui il était. Quel était le don de Dieu et qui est celui qui parle? Vous savez, ce matin, j'espère que chacun d'entre vous, eh bien, vous avez saisi, pas dans votre tête, mais dans votre cœur et par la foi, quel est le don de Dieu? Cette miséricorde de Dieu, la vie éternelle, le pardon des péchés, la restauration avec notre Créateur et le Dieu de l'univers. Et vous avez compris qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est venu nous exprimer l'amour de Dieu et qui a obtenu pour nous le pardon de nos péchés en s'offrant lui-même sur la croix, afin que Dieu ne se détourne pas de nous comme il s'est détourné de lui, mais qu'il nous accueille. Ces hommes ont dit, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ils ont compris, le message est passé. C'est après que le disciple arrive. Jésus a pu faire son travail. Vous savez, j'espère que vous, le Seigneur ne considère pas l'un d'entre nous comme il a traité ses disciples. Il a dit, je vais les éloigner pour que je puisse faire mon travail. Plutôt en laissant Dieu agir dans nos cœurs, transformer nos cœurs. L'ancien Steve, il va le mettre de côté pour qu'il y ait un nouveau qui exprime plus la pensée de Dieu, afin de pouvoir toucher. Et lorsque Jésus a pu toucher cette femme clé dans cette ville, beaucoup de monde de cette ville, Sychar ou Sychar, ont cru en Jésus-Christ et ont eu la vie. Je passe à un troisième exemple, c'est dans Actes chapitre 10. C'est exprès que j'ai pris un exemple de l'Ancien Testament, un exemple de l'Évangile, un exemple de l'Église primitive, pour montrer que c'est un principe tout au travers de la Bible. C'est un principe vrai, il n'y a pas à dire que ça vient de l'Ancien Testament ou ça vient de Nouveau Testament. C'est l'œuvre de Dieu. Dans Actes chapitre 10, eh bien, il nous dit au verset 1, « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. » Un homme païen qui, dans la pensée des Juifs, ne peut pas croire. Il est gentil, il est sincère, il essaye de croire, mais bon, il est païen, il n'est pas juif, hein, donc tant pis pour lui. Ah, Dieu ne pense pas comme ça, heureusement pour nous, hein. Dieu n'est pas le Dieu ni des Européens, ni des Blancs, ni de quel que soit. Il est le Dieu des êtres humains. Et si on peut échanger le sang, on peut avoir la même vie en Jésus-Christ. Cet homme est disposé. Il a démontré qu'il veut recevoir de Dieu. Mais il ne connaît pas quel est le don de Dieu et il ne connaît pas qui est Jésus-Christ. Donc il est là, c'est un homme sincère, pieux, et comme il y en a dans le monde. Parfois ces gens-là sont mieux que des croyants, se comportent mieux, malheureusement. Ça ne devrait pas être vrai, mais c'est vrai. Et là, et Dieu dit, mais cet homme-là, il a besoin d'entendre. Quel est le don de Dieu? Il a besoin d'entendre qui est Jésus-Christ. Et Dieu va faire une chose extraordinaire. Alors que cet homme, un jour, est en train de prier, il va avoir cette vision dans laquelle apparaît un ange et qui lui dit, Corneille, je vais t'envoyer chercher un homme qui pourra te dire ce que tu as besoin de savoir. Il s'appelle Simon-Pierre. Corneille, c'est tout ce qu'il voulait savoir. Et on voit que, au verset 7, il dit, dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat d'entre eux qui était attaché à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Il n'a pas perdu de temps. Dieu m'a dit où je peux savoir, où je peux avoir la réponse, où je peux connaître quel est le don de Dieu et qui est Jésus-Christ. Allez le chercher. Il est à Joppé, chez un tanneur, et vous l'amenez. Eh oui, Corneille, il est prêt. Le problème, c'est que Pierre n'est pas prêt. Et Dieu doit vite faire une œuvre chez Pierre. Heureusement qu'il y a deux jours de marche. Parce que nous voyons à partir du verset 9 que Pierre, en attendant le repas, eh bien, il est là-haut sur la terrasse, au soleil. Et tout d'un coup, il y a une vision. Il y a un drap qui descend, rempli d'animaux impurs, selon la définition de l'Ancien Testament, hein, de Lévitique. Et une voix lui dit, « Tue et mange. » Et Pierre dit, ah, « Moi, manger ça ? Mais c'est pas halal !» Il dit, « Moi, j'ai jamais mangé de ces choses-là » Il a dit, « Allons, je peux pas !» Le drap est monté. Ouf. Le drap est redescend. Il dit, « Tu et mange !» Mais Dieu, j'ai jamais mangé des choses comme ça, moi. C'est sale. Le drap remonte. Ah, j'étais pas obligé de manger ces animaux-là. Du cheval, hein, dans les lasagnes, par exemple. Et alors, mais le drap redescend encore une fois. Et dit, Pierre, tue et mange. Et Pierre commence, bon, il a du mal à comprendre, hein, mais c'est comme nous tous, hein, mais parfois le Seigneur doit nous répéter plus que trois fois. Mais au moins Pierre, au bout de trois fois, il se dit, mais il y a quelque chose là. Je me demande ce que ça veut dire. Et à peine terminé, tout d'un coup, il entend quelqu'un qui appelle d'en bas, il dit, c'est ici qu'habite Simon, Pierre. Et l'Esprit lui dit, écoute, Pierre, il y a des gens qui sont venus te chercher, tu vas avec eux. Pose pas de questions, tu vas avec eux. Pierre, il est encore là en train de... Il est étourdi par ce qu'il vient d'entendre. Parce que c'est toute son éducation, tout ça, tout est bouleversé. Et vous savez, c'est Pierre. C'est ce même Pierre qui, lui, le jour de Pentecôte, s'est levé, rempli de l'Esprit de Dieu. Vous savez, c'est pas parce que si l'Esprit de Dieu m'utilise et parce qu'il me remplit, et parce qu'il se sert de moi quelque part, ça ne veut pas dire que tout ce que je pense est juste. Heureusement, parce que je ne serai jamais utile pour Dieu dans ma vie. Parce qu'il y a encore des choses que je pense faux. Ce n'est pas parce que Dieu m'a utilisé quelque part, hein, vous avez ces prédicateurs qui disent, vous voyez, hé, c'est des milliers, Dieu me bénit, ce que je dis, faites-le. Tout faux. Parce qu'il y a des faux prophètes aussi qui ont des milliers. Ils ont du monde aussi, ils ont des stades remplis. Ça ne prouve rien du tout. Et alors, Pierre fait la route. Il y a deux jours de route encore. Et ça, ouais, il a le temps pour réfléchir, puis discute avec ces hommes. Il dit, c'est quand même... Normalement, je ne devrais pas être avec ces hommes-là. Hein. C'est des païens. Mais Dieu m'a dit d'y aller, alors j'y vais. Vous savez, c'était pas plus naturel que pour Élie de manger la viande apportée par les corbeaux. C'était pas plus naturel pour Pierre d'être accompagné par ces hommes-là, mais Dieu lui a dit de le faire. Il l'a fait. Et puis, alors il arrive, et il n'a encore pas compris, il arrive chez Corneille, il dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Alors Pierre lui raconte ce qui s'est passé, hein, je vous lisais le chapitre, hein, et Corneille lui raconte ce qui s'est passé. Et alors, on arrive au verset 28. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Il dit, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Voilà. Dieu travaille. Parce que si Dieu ne fait pas ce travail dans le cœur de Simon-Pierre, apôtre, celui qui a les clés du royaume de Dieu, peu importe, mais si Dieu ne fait pas ce travail dans le cœur et la pensée de Pierre, eh bien Corneille n'entendra jamais le message de l'Évangile. Et Pierre arrive au point et dit, j'ai appris un quelque chose. La vision, en marcher avec ces hommes-là, et puis j'arrive et j'entends ce que tu me racontes, Corneille, eh bien, je me rends compte que je ne dois plus penser qu'il y ait un homme sur terre qui est souillé ou impur. J'espère que vous avez appris cette leçon-là. Pas avec la bouche, mais avec le comportement. Vous savez, ça peut arriver un de ces jours. Vous allez voir un couple de lesbiennes rentrer. Ils vont dire, on est mariés, on est là, on vient pour entendre. Vous savez, c'est déjà arrivé. Hein. J'ai déjà entendu des témoignages. Et Dieu fait une œuvre. Dieu peut transformer. Vous savez, il n'y a personne, il ne faut jamais considérer, peu importe ce qu'est son mode de vie, ce qu'il a fait avant, ce qu'il est en train de pratiquer, aucun homme n'est souillé ou impur. Et il faut que nous l'apprenions. Et c'est seulement comme cela, si nous l'apprenons en tant qu'Église, que nous pourrons avoir le privilège de toucher certaines âmes qui ne seront jamais reçues ailleurs. Le Seigneur doit faire une œuvre dans nos pensées, transformer notre pensée, nos cœurs. On a déjà des gens, des anciens voleurs, on a déjà des anciens drogués, on a déjà des anciens ceci dans l'Église, on les a reçus. Et ça va bien, hein, ça fait des bons frères. Il n'y a pas quelque chose, il ne faut pas penser ni à une nationalité, ni à un arrière-plan, ni à quelque chose. Pierre a dû comprendre. Il a dit, j'ai appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Le saut final, Pierre dit, je ne sais pas quoi faire, je vais vous parler de Jésus. Ben ouais, c'est tout ce qu'on voulait. Vas-y Pierre. Alors il commence à parler. Comme il a dit, je vais parler normalement. Il a commencé à parler de Jésus, tout cela. Vous lisez le récit. Et puis, il arrive au moment où, il arrive au verset 43. Et il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le message, le cœur du message, le noyau du message de l'Évangile. L'essentiel, quiconque croit en lui, c'est-à-dire c'est recevoir le don de Dieu, savoir qui est Jésus. Celui qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Dieu exerce sa miséricorde. Et comme Pierre et ses compagnons, ils comprennent pas ce qui se passe. Le Saint-Esprit descend sur ces gens, parce que eux, au fur et à mesure que Pierre parlait, eux croyaient. Et quand ils ont cru, et arrivé au point où ils ont cru, l'essentiel, c'est que Christ est mort sur la croix pour leurs péchés, et que c'est Jésus, leur sauveur, ils sont sauvés, le Saint-Esprit est descendu, et ils ont parlé en langue comme les apôtres ont parlé en langue dans les rues de Jérusalem le jour de Pentecôte. C'était pas pour eux. Eux, ils savaient qu'ils avaient cru. C'était pour Pierre et ses compagnons qui étaient juifs, pour que eux voient dit, tiens, le Seigneur, il les traite comme il nous a traités. Alors, Verset 47, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? L'argument était imparable. Il dit, il est sauve comme il nous a sauvés. Ben, c'est des frères alors. Sur quoi? Et il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. Pareil. Et ils font partie du corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des âmes. Dieu les veut. Mais il cherche des hommes, des femmes, des témoins, dans le cœur desquels il a pu faire un travail avant de pouvoir les utiliser. Et pour chaque enfant de Dieu, mon souhait doit être Dieu, fais ce que tu as à faire. Transforme ma pensée afin qu'il soit vrai que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Afin que je puisse te servir. Que je puisse être un vase d'honneur utile. Ce serait quand même triste de se rendre compte, de dire, mais parce que j'ai été têtu, parce que j'ai pas voulu changer, parce que je voulais garder mon petit train-train, ma petite vie de tous les jours, eh ben, les voisins là, ben, c'est pas moi qui a pu lui parler du Seigneur, c'est quelqu'un qui est venu de l'étranger qui lui a parlé du Seigneur. Mais parce que moi, je voulais continuer ma petite vie. J'étais mon petit confort, j'étais sauvé. Alléluia, gloire à Dieu, j'ai une petite église. À Saint-Denis, là-bas, elle est pas mal, elle est bien, les gens sont sympas. Moi, ça me suffit largement. Parce que si vous avez cette mentalité, vous serez inutile pour Dieu. Mais c'est seulement lorsque je suis prêt à me laisser transformer par Dieu. Ou il m'écarte, comme il a fait avec les disciples, ou il me transforme, comme il a fait avec Élie, et comme il a fait avec Simon-Pierre. Et c'est pas parce qu'on est prophète, et c'est pas parce qu'on est apôtre, qu'on est dispensé de la transformation de Dieu. Il a besoin de nous refaire pour nous rendre utiles. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a un travail à faire chez le serviteur, autant que chez l'âme qui cherche pour qu'une personne soit sauvée. Nous voulons que certaines âmes soient sauvées. Peut-être que le Seigneur a besoin de faire un travail dans notre cœur avant qu'il puisse se servir de nous. Et si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, alors ce que Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te parle, tu peux avoir la vie éternelle. Croire que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous pouvez l'avoir si vous demandez à Dieu. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous avons ouvert ta parole pour que tu nous parles. Et Seigneur, ton œuvre n'est pas achevée dans nos vies. Au mieux, tu es en train de la réaliser cette transformation, afin que nous puissions devenir utiles pour toi et que tu puisses nous utiliser pour aller et pour atteindre ceux qui n'ont pas entendu encore et qui ne peuvent pas entendre. Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies. Transforme-nous. Nous nous réjouissons du fait que nous soyons tes enfants. Mais tes enfants ont besoin d'être éduqués afin de devenir des vrais disciples du Maître. Du Maître qui est dans les cieux. Père, Je crois que ce qui a besoin d'être dit a été dit. Maintenant, c'est à toi de travailler dans chaque cœur, par ton esprit. Soit pour le salut, soit pour la transformation, la sanctification, afin d'être utile pour toi. Nous allons nous recueillir, Père, dans le silence là, afin que ton murmure doux et léger puisse atteindre le cœur de chacun, selon son besoin personnel. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, que nous prions. Amen.